tout pour investir, le coach.
Alors c'est la coach aujourd'hui, chère voix off. Bonjour Charlotte Tamer.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes notre conseil en finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un vilain petit canard. On l'appelle comme ça depuis le début de l'émission. Est-ce que c'est la bonne manière de qualifier notre compte-titre, notre vieux compte-titre ordinaire, celui que vous avez et que vous délaissez, ou peut-être que celui que vous n'avez pas encore?
Alors c'est celui qui est clairement délaissé. C'est vrai que le compte-titre, c'est un peu le c'est, on sait que pour rentrer sur les marchés, il faut utiliser des enveloppes fiscales qui sont adéquates. Et en fait, comme le compte-titre n'a pas un avantage fiscal a priori apparent aussi attractif que l'assurance vie ou le PEA, c'est vrai qu'il est pour autant il est pas mal laissé pour compte. Pour autant, c'est une enveloppe qui est en train de revenir sur le devant de la scène. On va voir, une fois qu'on aura listé l'ensemble de ses avantages, pourquoi il revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Et au final, on se rend compte que c'est une enveloppe qui n'est pas tant à laisser de côté que ça, pour différentes raisons. La première, c'est que quand vous ouvrez un compte-titre, enfin, comme le compte-titre n'a pas d'avantages fiscaux apparents, eh bien, en fait, on peut mettre tout dedans. Il est totalement en architecture.
C'est un peu un panier Jiffoutou.
Voilà, on peut faire une grosse salade composée sur le compte-titre, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du titre vie, vous pouvez mettre des fonds communs de placement, dont les fameux ETF dont on parlait précédemment. On peut aussi mettre les crypto-monnaies et le tout mélangé. Vous pouvez faire les choses comme vous le souhaitez à l'intérieur de votre compte-titre. Alors, attention, les crypto-monnaies ne sont pas accessibles sur l'ensemble des plateformes, mais si vous êtes sur une plateforme qui propose des crypto-monnaies, vous pouvez mélanger titres vifs, ETF et crypto-monnaies. Et donc, sans restriction, ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième avantage qu'on veut mettre en avant sur le compte-titre, c'est qu'on va être sur une enveloppe qui est particulièrement liquide et qui est liée à la propriété sur le compte-titre. Je vais le mettre en opposition, par exemple, avec l'assurance-vie, qui est, a priori, le placement préféré des Français. Quand vous ouvrez une assurance-vie, vous êtes créancier de l'assureur qui vous délivre l'assurance vie. Donc vous, en tant qu'investisseur final, vous ne le ressentez pas, hein, ça, à aucun moment vous ne vous sentez créancier de l'assureur, mais vous n'êtes plus propriétaire des capitaux qui composent votre assurance vie. Alors que quand vous êtes sur un compte-titre, vous êtes détenteur, vous êtes propriétaire directement des titres qui composent votre compte-titre, ce qui va changer la rapidité de la liquidité, des ordres de trading, donc ça va beaucoup plus vite que sur une enveloppe assurantielle. Vous l'avez sous la main, et les garanties bancaires qui vont être associées à ce compte-titre sont quand même différentes et un peu plus généreuses. La troisième chose qui me paraît essentielle, on va parler des frais comme d'habitude, c'est la faiblesse des frais. Quand vous ouvrez une enveloppe bancaire auprès d'un teneur de compte et non pas d'un courtier, donc faites attention à ça.
Qu'est-ce que c'est la différence entre un teneur de compte et un courtier pour les plus novices d'entre nous?
En fait, le teneur de compte, c'est lui qui va assurer toute la partie opérationnelle de votre compte-titre, c'est lui qui va détenir vos capitaux à travers ce compte-titre. Le courtier, c'est quelqu'un qui va être un intermédiaire entre le teneur de compte et vous, le client, sur le compte-titre. Et là, en fait, on se rend compte de quoi ? Eh bien, un compte-titre ne présente pas de frais de tenue de compte. Alors, les frais de tenue de compte, c'est quoi ? Ils sont aussi appelés frais de gestion. Il y a toujours un problème de nomenclature sur les frais aujourd'hui. Mais les frais de tenue de compte sur l'assurance-vie, toujours par opposition, vont entre 0,6% à 0,96%. Et ça, par an, sur un placement plutôt investi en actions sur 8 ans, ça a un impact colossal sur la performance. Donc, architecture ouverte, propriété, très grande liquidité, faiblesse des frais et font que ça redevient un placement assez attractif. Pourquoi on en entend beaucoup parler ? Parce qu'on est clairement dans une période très prospère aux crypto-monnaies et qu'aujourd'hui, vous ne pouvez investir vos crypto-monnaies que sur le compte-titre. La deuxième raison, c'est parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont sous société, en SASU par exemple. Et en fait, le compte-titre, vous pouvez l'ouvrir quand vous êtes une personne physique, quand vous êtes une personne morale. Vous pouvez ouvrir un compte-titre quand vous êtes majeur, quand vous êtes mineur. Enfin, l'étendue des possibles est beaucoup plus large que pour les enveloppes homologues qui sont beaucoup plus restreintes. Et ensuite, le dernier point, on entend beaucoup parler aussi du compte-titre parce que on voit arriver une nouvelle forme de produit aujourd'hui sur la place qui sont les plans d'investissement programmés et donc qui permettent d'investir de manière régulière en DCA sur les marchés financiers. Et là, cerise sur le gâteau, en plus de l'absence de frais de tenue de compte, vous avez aussi une absence des frais de trading. Donc vous ne payez que votre sous-jacent. Et ça, en fait, aujourd'hui, on oppose le compte-titre à l'assurance-vie en disant il n'y a pas de franchise d'impôt. Non, il n'y a pas de franchise d'impôt, mais les moins-values reportables, les moins-values actives, sont reportables sur les plus-values actives à déclarer pendant 10 ans. En fait, il y a un jeu de compensation. La fiscalité n'est pas si drastique qu'elle n'y paraît. Il y a plusieurs choses. D'une part, on investit de plus en plus en fonds communs de placement, notamment en ETF. Mm-hmm. Si vous ne bougez pas, que vous êtes en gestion passive, que vous ne bougez pas votre ETF de l'année, vous partez de 100, vous finissez l'année à 120, votre plus-value n'est pas à déclarer. Vous êtes en plus-value passive. Seules les plus-values et les moins-values actives sont à déclarer. Et deuxième chose, quand vous avez des moins-values actives, parce que sur un portefeuille de 10 ans, bah, le marché ne fait ni que monter, ni que descendre, hein. C'est aussi la beauté du marché, c'est comme ça qu'on fait de la performance, eh bien vos moins-values actives vont venir gommer les plus-values actives sur les 10 prochaines années. Il y a un jeu de compensation qui s'effectue entre le fait qu'on investit sur des fonds communs de placement et le fait de la compensation entre les plus et les moins-values actives. On a là tous les éléments réunis pour avoir un super outil pour préparer sa retraite à titre personnel, mais aussi au sein de sa société. Et je le disais tout à l'heure, personne morale, personne physique, majeur, mineur avec une autorisation parentale. On peut l'ouvrir en titulaire unique, mais aussi en compte joint ou en compte indivis. On peut le détenir en pleine propriété, en nue propriété, en usufruit. Pour l'IP que je ne suis pas, donc l'ingénieur patrimonial que je ne suis pas, ça me laisse quand même un petit peu rêveuse. On a là un vrai outil dont tout le monde devrait être aujourd'hui équipé.
Mais là, c'est le logis du compte-titre que vous nous faites, Charlotte. Alors, pourquoi il est aussi peu populaire ? C'est une question de marketing. On parlait tout à l'heure des ETF tout à l'heure.
Tout à fait.
Surmédiatisé.
Alors, il y a ça. Il y a une question de marketing. Il y a une question qu'en fait, aujourd'hui, tout est drivé par la fiscalité. Encore une fois, on le rappelle, la fiscalité, c'est le cerise sur le gâteau. Nous, ce qu'on vise avant tout, quand on conseille nos clients, c'est d'aller chercher de la performance. Si un, j'ai de la performance et que deux, en plus, je peux avoir l'attrait fiscal, c'est fantastique. Mais on se rend compte aujourd'hui, à travers les enveloppes bancaires, hein, on parle pas du PEA ce matin, mais il rentre un peu dans une logique un petit peu similaire en termes de frais. Absence de frais de tenue de compte, absence de frais de courtage grâce à l'investissement programmé, ouais. On est quand même sur un combo gagnant. Donc moins j'ai de frais, plus j'ai de perf.
Mais Charlotte, si j'ai déjà un PEA, j'ai déjà une assurance vie, au pluriel parfois, et que je veux rester en gestion plutôt passive, quel est l'intérêt d'avoir un CTO en plus ? Un compte-titre ?
J'ouvre un compte-titre, je veux rester plutôt en gestion passive, j'ouvre un compte-titre qui ne me coûte rien l'année, j'investis sur un ETF qui va me coûter, si je choisis plutôt pas trop mal, entre 0,1 et 0,5% de frais de gestion annuels. Si il ne se passe rien d'autre, en fait, à part le coût de mon ETF à l'année, ça ne va rien me coûter. Donc, je vais investir une certaine somme d'argent qui va travailler sur les marchés, je sais pas, je prends le S&P 500, j'investis dessus pendant 10 ans, ça va me coûter en tout et pour tout 0,5% de frais, tout compris, sous-jacent compris, puisque je ne paye que le sous-jacent, comparé à une assurance vie. Même l'assurance vie la moins chère du marché, qui est à 0,96% aujourd'hui, tout compris, est deux fois plus chère qu'un compte-titre investi sur un ETF.
Bon, comment j'arbitre alors ? Comment je décide ?
Alors, comment je décide ?
Je vais vous donner une question concrète. Regardez, ouais. On a Michel qui nous suit quotidiennement et qu'on salue, qui est basé à Marseille, si je ne dis pas de bêtises. Michel G. qui possède un vieux compte-titre, mais impossible d'acheter des actions US avec. Et il nous demande s'il existe des comptes-titres où on peut acheter ce type de produit. Par exemple, on le sait avec le PEA, on peut aller acheter des ETF exposés au monde, exposés US. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur un compte-titre ? Et est-ce que, du coup, c'est comme ça qu'on arbitre ?
Alors, après, on va parler, ça dépend des plateformes, ça dépend des distributeurs. Il faut quand même se renseigner. Vous pouvez ouvrir un compte-titre dans une banque. Il y a de plus en plus de plateformes en ligne qu'on appelle des plateformes d'investissement qui permettent aujourd'hui d'investir et qui vont avoir des offres plus ou moins variables en fonction de l'offre qu'elles proposent. Tout n'est pas toujours éligible. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé au placement préféré des Français, j'ai rien contre l'assurance vie, hein, puisqu'elle a un avantage successoral, etc., qu'on peut pas nier aujourd'hui. Je dis juste que il peut être intéressant de compléter un investissement exclusivement en assurance vie à travers aussi des enveloppes bancaires. Et je pense que toute personne, avant d'investir, c'est comme pour l'assurance vie, c'est de s'intéresser au mode de fonctionnement de la plateforme qui va proposer le compte-titre, à son univers d'investissement, et voir s'il est en corrélation avec le souhait de l'investisseur final. Il y a quand même un petit travail. Encore une fois, il y a quand même un petit travail de recherche et d'intérêt de la part de l'investisseur.
Est-ce que la réponse, justement, à comment on choisit, c'est pas quelque part l'horizon ? On le comprend, le PEA et l'assurance vie, pour des questions de fiscalité, nous encouragent à rester logés longtemps dedans. Est-ce que le CTO, justement, c'est pas l'endroit où, quand on a envie de boursicoter, d'investir sur l'économie, eh bien, on y va et on l'utilise un peu, non pas en trading journalier, mais voilà, où on se permet d'aller mettre son argent au service de l'économie et regarder un petit peu plus régulièrement ce qui s'y passe que sur son assurance vie ou son PEA qu'on peut laisser travailler tranquillement.
Alors, effectivement, c'est ce qui va ressortir des modes d'utilisation du compte-titres aujourd'hui. Après, je pense qu'il ne faut pas limiter le compte-titres à cette utilisation, à cette notion de trading. D'une part, pour une raison de fiscalité évidente que j'ai évoquée juste avant, plus-value active, plus-value passive. La plus-value devient active à partir du moment où vous opérez à des mouvements d'achat et de revente sur votre portefeuille. Donc, vous pouvez générer un peu de fiscalité en fonctionnant de cette manière-là. Mais je pense que le compte-titres peut être aussi fait pour un investissement patrimonial, un investissement de plus long terme. Et là où amène les épargnants à réfléchir, c'est de se dire, est-ce que je fais passer les frais ou la fiscalité avant tout ? Moi, je pense qu'en tablant sur les frais, sur la réduction des frais, on est plus enclin à aller chercher de la performance. Mettre la fiscalité avant toute chose, c'est un peu comme si je vous mettais dans une Ferrari sans que vous ayez votre permis de conduire. Je ne suis pas sûre que l'enveloppe va générer de la performance au final. Donc, moi, ce que je dis, c'est que remettons les choses dans le bon ordre. D'abord, allons chercher de la performance et toutes les études se rejoignent aujourd'hui pour dire, moins il y a de frais, plus il y a de performance. Mmh. Et deuxièmement, l'attraction fiscale arrive en deuxième étape. Mais je vais vous donner un exemple sur le compte-titres dont on parle assez peu.
On va finir là-dessus, Charlotte.
Aujourd'hui, sur les comptes-titres, vous pouvez aussi mettre des fonds communs de placement monétaire, d'accord, pour ces placements de trésorerie. On va prendre toutes ces sociétés, notamment les holdings, qui cherchent des placements à court terme aujourd'hui. On a pas mal de sociétés, des holdings, des sociétés d'exploitation qui cherchent des placements de trésorerie à court terme, mais qui sont un petit peu embêtés par tout le conditionnement d'un DCA aujourd'hui. Il faut avoir un certain montant, il faut avoir un certain horizon de placement, et si vous sortez avant l'échéance, vous perdez votre performance. Demain, vous ouvrez un compte-titres avec un fonds monétaire dessus, qui va vous rapporter un 3,5%. Vous vous dites que vous êtes parti sur une année, au bout de 8 semaines, au final, vous devez sortir, vous récupérez votre investissement pro rata temporis. Ça, aujourd'hui, grâce à l'architecture ouverte, je peux avoir du monétaire, parce que je suis sur une enveloppe bancaire, j'ai ma liquidité en tout temps, et je ne suis pas conditionné, et j'ai très peu de frais. Donc, au final, je suis sur un produit parfaitement adapté à tout type d'investisseur.
Je étant à la fois, on l'entend, une personne physique et une personne morale. Oui. Vous êtes à la tête d'une entreprise avec de la trésorerie. Le compte-titres, ça s'envisage. Merci beaucoup, Charlotte Tamer, conseiller en finances personnelles, avec nous un jeudi sur deux dans Tout pour investir. Et à toute heure du jour et de la nuit, en podcast et en replay, parce que cette séquence, comme l'ensemble de nos coachings, est disponible sur notre site et notre application dans la foulée de l'émission.